you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Autour de moi, ce soir, Marie-Josée Sirache, Marie Sambier, Jean-Christophe Briançon pour parler ensemble de Why, texte et mise en scène de Peter Brook. Et Marie-Hélène Etienne, c'est jusqu'au 13 juillet au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Nous parlerons également d'Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras, mise en scène Bertrand Marcos au Théâtre des Bouffes parisien. Et puis une grande page qui s'ouvrira, et on fera ça un peu d'ailleurs cette semaine. Des conseils, nous donnerons quatre de spectacles à voir dans les festivals cet été, mais aussi d'ailleurs quelques livres à lire. Nous ouvrons cette dispute avec Why. Texte, mise en scène, Peter Brook et Marie-Hélène Estienne. Jusqu'au 13 juillet au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, à 94 ans, Peter Brook livre sa nouvelle création. Création qui partira en tournée à travers le monde la saison prochaine. Je serais curieux de voir comment ce spectacle sera reçu, notamment en Russie ou en Chine. Mais aussi, il ira aux États-Unis, en Colombie, dans bien d'autres pays. Ce qui montre à quel point Peter Brook est un trésor national vivant. La question du titre est en fait aussi simple qu'abyssale. Pourquoi faire du théâtre? Avant de développer chacun nos points de vue, arguments sur cette production, une première impression sur ce spectacle, Jean-Christophe Briançon?
Bah pour moi, je l'ai vécu comme un concentré, une sorte de piqûre de rappel de l'œuvre et de la pensée de Peter Brook.
Marie Sorbier?
Malgré quelques réserves, c'est quand même un metteur en scène mythique dans un lieu qui lui correspond bien.
Marie-Josée Serrache.
C'est un des plus beaux spectacles, si ce n'est le plus beau spectacle de l'année.
Peter Brook ne souhaite pas qu'on diffuse d'extraits de son spectacle, alors on va quand même donner quelques explications et c'est Jean-Christophe Briançon qui va nous dire comment est construit ce spectacle d'un point de vue dramaturgique.
Alors c'est un spectacle qui est aussi simple qu'il est compliqué, c'est-à-dire qu'il est à la fois, on peut le vivre comme un spectacle brouillon, un spectacle foisonnant et en même temps un spectacle très didactique. Parfois on se dit qu'il pourrait même s'agir d'un spectacle pour, on va dire, pour que les jeunes générations puissent s'approprier et comprendre la pensée de Brook. Je trouve que dans les deux cas je vois ça comme quelque chose de positif, hein. Il n'y a pas de critique là-dedans, aussi bien dans le didactisme que dans l'effet brouillon.
Description.
En tout cas, très concrètement, on a trois personnes donc sur le plateau, trois comédiens qui, dans un premier temps, pendant les 20 premières minutes, vont chacun leur tour nous expliquer ce que c'est, selon eux, de faire du théâtre, nous l'expliquer, mais en plus nous le montrer en faisant une sorte d'un étalage de répertoire de ce que ça peut être que d'être comédien aujourd'hui pour eux. Donc ça, c'est les 20 premières minutes. Et puis, à la suite de ces 20 minutes, va suivre quelque chose de très différent. On va rentrer dans un spectacle quasiment historique et c'est là que je parlais de spectacle didactique qui va nous parler de Meyerhold, de la figure de ce dramaturge, metteur en scène et théoricien russe qu'était Meyerhold. Et on rentre donc dans un spectacle où toujours les trois comédiens seront là, mais pour nous expliquer d'une manière quasi chronologique et très simple ce qu'a pu être la vie et la pensée de Meyerhold. Non seulement la vie, on va dire la vie politique telle qu'il a pu essayer de faire vivre sa pensée en Russie à ce moment-là. En l'occurrence, ça a été compliqué, on comprendra pour ceux qui ne le savent pas déjà. Et puis ensuite, une explication assez simple et claire de sa pensée théâtrale. Donc là, c'est jusqu'à la fin un spectacle qui se présente finalement comme quasiment historique, quoi, on va dire.
Alors, disputons-nous ou pas autour de ce why. Marie Sorbier, alors, pour développer vos sentiments sur ce spectacle maintenant.
Oui, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la première partie, les 20 minutes dont parlait Jean-Christophe à l'instant, c'est-à-dire c'est une partie plus théorique. Peter Brook le présente comme une parabole. On a une histoire. Au début, il nous raconte une histoire qui est assez drôle, d'ailleurs, sur pourquoi le théâtre existe, que le théâtre a été offert par les dieux aux hommes qui s'ennuyaient. Enfin, toute cette parabole-là, cette genèse du théâtre.
Dieu inventa le théâtre parce que les hommes s'ennuyaient le septième jour.
Exactement. Et ça, ça marche très bien. C'est très proche, en effet, des intentions dramaturgiques de Brooke toute sa vie. Donc, on retrouve la quintessence de ce qui fait son travail et de façon comme ça très claire, très nette, très pure, avec des acteurs, il faut le dire, quand même assez prodigieux. Ça, je crois qu'on y reviendra peut-être. Mais moi, j'ai trouvé notamment les femmes incroyables. Et puis, ce jeu d'acteur, encore une fois, très particulier chez Brooke, avec cette épure, puis cette sensation très proche. Et sur cette première partie, ce qui m'a touchée aussi, c'est que c'était des questions qui pourraient paraître un peu entre soi. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre? Pourquoi le théâtre? Et pourtant, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. J'ai vécu un moment de communion sur ces 20 minutes des questions partagées, que ce soit autant par les acteurs que par les spectateurs, nous, en face. Après, sur la partie...
Pour les questions quand même un peu basiques. On peut le dire sans faire offense.
Simple,
simple, basique, comme dirait Aurel San.
Profonde néanmoins. Bien. Le pourquoi, c'est quand même. On n'a toujours pas la réponse.
Oui, c'est basique, mais à la fois.
Non, mais après, c'est
une réponse.
C'est assez abyssal.
Qui est le plus important, le metteur en scène, l'acteur, et on a inventé le metteur en scène. Enfin, il y a tout un tas de questions et d'histoires qui sont les bases pour pouvoir justement décoller ensuite. C'est pas du tout péjoratif quand je le disais, hein. Mais je le dis un peu quand même.
Mais je l'entends dans votre voix. Mais cette partie après plus didactique, moi pour le coup m'a laissé un peu à distance. Je m'y suis presque ennuyée. Peut-être, alors après je me suis dit, mais on le développera peut-être après, je me suis demandé si c'était pas justement une histoire de génération. Et si, pour la première fois peut-être, quand je vais voir un spectacle de Brooke, à ce moment-là, je me suis demandé si c'était pas un peu daté.
Marie-Josée Sirache.
Moi j'ai vu ce spectacle comme une continuité, c'est-à-dire deux parties, comme un diptyque, où la question du pourquoi, ce fameux why, traverse l'ensemble du spectacle. Pourquoi le théâtre? Pourquoi fait-on du théâtre aujourd'hui? Pourquoi Meyerhold fait-il du théâtre à l'époque, au moment de la Révolution, avec tout ce qui lui arrive, c'est-à-dire, il y a la parenthèse enchantée, si je puis dire, des premiers élans révolutionnaires où tout est permis.
Le théâtre pour tous.
Le théâtre pour tous, populaire. Le théâtre total, ils remettent tout en cause. On ne fera plus du théâtre comme auparavant.
Avec le soutien du régime dans un premier temps.
Avec le soutien du régime. Donc à ce moment-là, il est avec Mayakovsky, il est avec Nikolaï Erdmann, qui écrit Le Suicidé. Et qui lui donne Le Suicidé à lire en 28 ou en 29. Et il y a ce comité de lecture qui décide, ou auquel participe Staline, et qui décide que ce texte est évidemment injouable. Il est donc censuré. Erdmann prend 10 ans de goulag et n'écrira plus jamais pour le théâtre. Il faudra attendre sa mort pour qu'il soit joué enfin en Russie. Il y a Mayakovsky à côté de Meyerhold qui se suicide en 29, pardon sur les dates, hein. Ouais, mais Mayakovsky qui est donc poète, qui vient en France et il rencontre Charles Dullin, donc il y a Charles Dullin, et à ce moment-là Mayakovsky donc est le compagnon de Lily Brick, qui est la femme d'Elsa Triolet, qui est la sœur d'Elsa Triolet, qui est donc la femme d'Aragon. Donc tout ça se mélange, il questionne, en même temps qu'on questionne le théâtre qui est un art révolutionnaire, on questionne la révolution et l'échec de la révolution, et peut-être même l'échec du théâtre. Je trouve ce spectacle magnifique. C'est une claque, c'est d'une intelligence, avec des moyens, d'une sobriété, des acteurs, trois acteurs magistraux. Enfin, moi, je suis rentrée là-dedans, j'ai eu des larmes à des moments. Mais au détour d'une phrase, d'une simple phrase, d'un simple geste, ils ont juste deux chaises, un immense tapis qu'ils traversent, trois portants qu'ils vont déplacer... une veste qu'ils vont s'échanger pour incarner ou Charles Dullin ou Erdmann. Enfin, je trouve ça remarquable. C'est d'une intelligence, d'une finesse, d'une poésie. Je me dis, waouh, finir la saison théâtrale avec un tel spectacle, mais quel bonheur!
C'est 1930, Mayakovsky.
Voilà, j'étais pas loin.
Précisant, moi non plus. Mais c'était pas ça. C'était 1930. Jean-Christophe Briançon, vous avez décrit, maintenant vous pouvez commenter pour rentrer dans cette dispute.
Ouais, c'est effectivement ça, la grande force de ce spectacle, c'est sa simplicité. Et c'est là que je parlais tout à l'heure de ce spectacle comme d'une sorte de manuel de l'œuvre et de la pensée de Brooke, parce que on voit dans cette simplicité et par la façon dont elle est dictée, on voit et comprend exactement ce que Brooke a toujours voulu faire du théâtre, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on pense qu'il est, c'est le théâtre de de l'espace vide, justement, cette fameuse formule, ce théâtre qui pourrait se faire avec une mise en scène qui, comme il le dit dans le texte, une mise en scène sans mise en scène, un théâtre quasiment sans texte, sans acteur, sans rien, un théâtre qui pourrait montrer un plateau nu, que ce serait quand même du théâtre quasiment. Et là, on le voit exactement, on voit ce théâtre mis en forme réellement, cet espace vide montré et démontré, mais sur un propos effectivement très complexe, aussi basique puisse-t-il être, un propos qui malgré tout nous emmène effectivement dans des abysses de réflexion possibles que rares sont les metteurs en scène qui osent le confronter à ces questions, parce que justement c'est des questions tellement grandes, vastes et humaines que finalement il peut paraître un petit peu enfantin ou prétentieux d'essayer de s'y attaquer. Là, il s'y attaque frontalement, à la fois avec la simplicité de son théâtre qui est la sienne, et en même temps, c'est là que je pense que c'est pas seulement un théâtre, une pièce sur Meyerhold et une pièce historique, c'est aussi évidemment une pièce où, en nous parlant de Meyerhold et en nous montrant ce théâtre-là, Peter Brook nous parle de lui, bien sûr, et de lui. Alors, il y a évidemment mille manières de le voir, parce qu'il est bien trop intelligent pour le faire de façon simple et binaire, mais en tout cas, nous montrer cette pièce-là à un instant qu'on pense être a priori la fin de sa vie, nous montrer cette pièce-là et nous parler de Meyerhold, c'est évidemment nous parler de la révolution qui a pu être la sienne aussi, lui, en tant que metteur en scène, la révolution qu'il a voulu intégrer dans le théâtre, et d'une certaine manière nous renvoyer se renvoyer lui-même face à la figure de Meyerhold, et donc nous faire réfléchir à son œuvre historiquement, en acceptant lui-même, de manière peut-être présomptueuse, mais à la fois très simple et très juste, parce qu'on ne peut pas lui retirer, en acceptant d'être le grand metteur en scène qu'il est finalement. Il nous le dit, il l'assume. Je suis cet homme-là qui peut parler face à Meyerhold, finalement.
Oui, mais c'est vrai que c'est un spectacle quand même assez particulier, même dans l'œuvre de Peter Brook, parce que toutes ces dernières années, certes, il faisait un théâtre d'une très grande simplicité et d'une immense richesse, mais il y avait souvent des textes de dramaturges qui existaient, ou voire des adaptations très très lointaines, très proches, très brookiennes de textes. Là, il est quand même... Et du coup, moi, quand j'ai vu que c'était une tournée mondiale qui était prévue, je me suis dit que c'est quand même un message au monde que Peter Brook fait passer ici. Il fait pas une tournée de conférence, il envoie le spectacle dire les choses qu'il faut entendre de par le monde, avec cette phrase de Meyerhold qui est citée dans le spectacle: le théâtre est une arme dangereuse. Elle est dangereuse pour les régimes, mais elle est aussi dangereuse pour celles et ceux qui pratiquent cet art, hein, parce que on le fait pas toujours impunément. Meyerhold, Maïkovski, Erdmann, évidemment, l'ont su, hélas, pour eux, très bien. Et je crois qu'il faut le prendre tel quel, c'est-à-dire que c'est trois comédiens que moi je trouve tous trois formidables, pas seulement les deux femmes, mais aussi l'homme, qu'on a déjà d'ailleurs vu régulièrement les uns et les autres dans des spectacles.
Je l'avais rarement vu aussi bon, le comédien dont je suis désolé d'avoir oublié le nom.
Eh bien, Marcello Meghel.
Je l'avais déjà vu effectivement chez Brook.
Marcello Magni, pardon.
Et là, il est incroyable.
Il est phénoménal. Mais c'est vrai que je pense qu'il va faire comme ça, faire une tournée à sa parole, et il a des choses politiques à nous dire avec ce spectacle. Marie Sorbier.
Oui, alors moi j'étais moins sensible justement sur la partie politique. Je suis en...
Peut-être dans le confort des bouffes du Nord et de notre situation de privilégiés. Moi, le fait qu'il tourne, alors j'imagine qu'il ne va pas aller jouer dans les villes et les villages du monde entier, mais ne serait-ce que d'ailleurs dans les grandes scènes de Moscou, de Chine, c'est quand même pas rien aujourd'hui.
Oui, j'ai vu qu'il allait à Taïwan également, ce qui a résonné de façon étonnante là-bas. Oui, après moi je suis plus sensible à sa poésie qu'à sa version politique, donc c'est pour ça que je crois que j'ai préféré la première partie du spectacle et les deux ou trois dernières phrases qui sont très fortes sur ce rapport à la vérité au théâtre. Je ne saurais pas les citer, mais il y a les dernières phrases qui percutent comme ça, qui sont très belles. Ce que je trouvais très juste dans ce que vous disiez, Jean-Christophe, c'est le côté enfant. Moi c'est ce que j'ai vu quand je l'ai vu, il était dans la salle le soir où j'y étais, et il a, malgré ses 94 ans, encore le regard de l'enfant. Il a un côté très joueur, et quand il s'est levé comme ça et qu'il a vu ce public et ses acteurs, et ça c'est très touchant dans la justesse de ce qu'il propose, et je crois qu'il est vraiment à l'endroit où il veut être, et que son message est très clair, et pour lui et pour ceux qui le reçoivent.
Christophe ?
Je l'ai vu exactement comme vous, Arnaud. Moi, je vois ça comme une forme testamentaire de son théâtre. Et il veut effectivement faire circuler sa parole et sa pensée. Avec, et c'est ça qui m'a touché plus que le fond politique de sa théorie et de sa pensée, qui auquel je suis très sensible aussi. Mais là, c'est la posture de cet homme qui se met dans cet état de effectivement de dire au monde encore une fois quel a pu être son parcours, et cette posture aussi d'une certaine manière un petit peu mélancolique, ou en tout cas assez triste finalement, parce que il le dit d'ailleurs à un moment donné de la pièce, ils nous disent, un personnage parlant à la première personne dit je parle des textes du passé parce que je n'ai pas le choix. Et c'est exactement ça d'une certaine manière que nous dit aussi Peter Brook, c'est voilà, j'en suis arrivé là, j'ai fait ça, maintenant je ne peux plus rien faire d'autre que de le répéter. Qui veut prendra ma place ou prendra la suite, mais j'ai tout dit et voilà, écoutez, on ne peut plus qu'écouter mon passé maintenant, j'ai plus rien à dire dans ce présent-là. Je trouve ça très émouvant.
Marie-Josée Sirache.
Moi, je n'ai pas du tout entendu comme une pièce testamentaire, mais absolument pas, je trouve que c'est vivant.
Je ne peux pas employer ce mot, hein.
Non, mais...
Son message, en tout cas, passe à travers ce spectacle.
C'est Jean-Christophe, je crois, qui l'a employé. Au contraire, moi, je pense que... dans la période où l'on est, d'incertitude et de confusion, il repart aux sources, et du théâtre dans la première partie, et de l'idée d'un théâtre qui pourrait révolutionner lui aussi le monde en le questionnant, en faisant exploser tous les codes. Il y a cette métaphore de la plume de l'ange qu'on entend au début dans la première partie, qu'on retrouve à la fin, et je trouve ça très très beau. Moi j'ai vu il y a pas très longtemps au Grand Palais l'exposition Rouge qui raconte cette période-là, c'est-à-dire le coup d'arrêt à la liberté créatrice issue d'un mouvement révolutionnaire via l'entremise d'un art officiel d'État qui est le réalisme socialiste. C'est là où tout s'arrête. Et à partir de là, il y a une mise entre parenthèses. Et cette histoire-là, on a besoin, je pense, de la savoir parce qu'elle nous nourrit encore aujourd'hui. Elle nourrit les utopies, les fausses utopies, les espoirs, les faux espoirs. Quand même, on a besoin de tirer les leçons de cette histoire-là, qui nous est très très proche, pour pouvoir envisager d'autres possibles. Parce que sinon on est mort. Enfin, on est mort. On est des gens complètement éteints. Enfin, on n'a plus rien à quoi se raccrocher.
C'est vrai, mais malgré tout, Peter Brook aujourd'hui n'essaye pas de continuer son chemin de révolution et son cheminement de pensée. Il ne fait que de nous. Et c'est très bien, c'est très utile et c'est nécessaire, mais finalement il accepte d'être dans le retour vers le passé pour nous montrer et peut-être nous avertir aussi de certaines choses, mais en sa position il ne se met plus dans la posture du metteur en scène qui continue de proposer de révolutionner la forme et la pensée. Il simplement récapitule d'une certaine manière ce qu'a pu être sa carrière, et c'est très bien, mais il laisse finalement aux autres, aux générations à venir, le soin d'éventuellement eux-mêmes révolutionner comme il a pu le faire. Le théâtre et la pensée.
Moi, je pense qu'il prend le relais au moment où Erdmann écrit Le Suicidé, c'est-à-dire que je pense qu'il se situe dans cette poursuite-là, dans cette pensée-là, dans cette volonté de faire un théâtre accessible au plus grand nombre, un théâtre à la fois savant et érudit, un théâtre qui accueille les gens, quels qu'ils soient. Parce que son théâtre peut être monté partout, cette pièce, elle est audible à tout le monde. Elle est d'une simplicité, on parlait de simplicité, oui, mais c'est pas, on tire pas les gens vers le bas, au contraire. On part de questions tout à fait basiques que les gens même n'osent pas poser, parce qu'en se disant, mais je vais avoir l'air idiot de poser cette question-là. Comment on fait le théâtre? Est-ce que c'est le corps qui décide? Est-ce que c'est le mental? Quand je bouge, quand je joue un personnage, comment je dois l'incarner? C'est quoi l'incarner, pas l'incarner? Et donc, ces questions-là que tout un chacun peut se poser, il les met sur le plateau et il nous embarque. Et ça, je trouve ça magnifique parce que c'est un voyage sans fin. Et moi, j'avais pas envie que ça s'arrête tellement c'était émouvant, c'était beau et intelligent.
Marie Sorbier.
Oui, autant je vous rejoins tout à fait sur la première partie. En effet, sur ces premières questions qui sont posées de façon à la fois très simple et très profonde. Et ça marche. On a envie de les suivre et de les entendre et de s'interroger. Autant sur la seconde, j'ai trouvé quand même ça presque pédagogique. Et c'est là où moi je suis sortie du processus théâtral et j'écoutais une histoire qu'on était en train de me raconter, mais j'étais plus, en tout cas à des moments, j'étais plus dans le théâtre.
Malgré tout, les comédiens, même dans cette partie pédagogique, sont quand même très présents. Et présents à un point qui nous montre que ce n'est pas seulement un manuel d'histoire qui nous est récité. C'est aussi une mise en forme.
On a quand même les projections des portraits des personnes dont on parle.
Oui, alors ça,
scène,
c'est effectivement.
Oui, ça arrive deux fois et demi. Bon, c'est un spectacle qui peut évoluer d'ailleurs dans
qui évolue souvent tous les soirs.
Ça, effectivement, on peut souhaiter que ça n'existe pas par la suite, mais pour autant, la simplicité de cette pièce est effectivement remarquable parce que
elle est encore plus simple que prévu parce qu'il devait y avoir un pianiste qui n'y est pas. Donc c'est que Peter Brook a retiré. Donc c'est que ce serait peut-être travail est en cours de toute façon. Il y a quelques représentations à peine qui viennent d'avoir lieu. Je pense que ça va continuer, mais ce que je vais pas faire la troisième voix ou la synthèse entre Marie et José Serrache et Jean-Christophe Briançon, mais c'est vrai que ce spectacle-là, ce n'est pas un spectacle de fiction, au sens où il le fait depuis des années et des années sur un texte qui, certes, il y a très souvent et la plupart du temps des sujets politiques chez Peter Brook, mais qui passe à travers des pièces d'auteurs extrêmement différents. Là, il y a quand même quelque chose de à la fois récapitulatif et d'éclairant, ou en tout cas quelque chose qui doit nous alerter, parce que c'est le mot que vous employez, je crois, Marie-Josée, sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, et qu'effectivement, il y a un art qui est le théâtre qui peut-être aider les gens à aller mieux ou le monde à aller mieux. C'est
du moins à réfléchir.
À réfléchir, c'est déjà aller beaucoup mieux.
Oui.
Hein, on est d'accord que c'est le premier pas absolument essentiel. Donc, c'est une sorte d'entre-deux, ce spectacle. Et j'entends les réserves de Marie Sorbier. Je un peu partagé, mais cette histoire de Meyerhold, en fait, je la connaissais pas si bien. Et dans le détail, elle est quand même absolument terrifiante et exemplaire. Et c'est pour ça qu'il l'a évidemment choisi. C'est vrai que c'est un nom que les amateurs et amatrices de théâtre connaissent, Meyerhold, mais...
Ça, on ne saura jamais pourquoi il n'est pas parti. Il a eu la possibilité de partir, de quitter la Russie, Meyerhold. Il est resté. C'est cette question-là qui est sous-jacente dans cette deuxième partie-là. Il est resté jusqu'à en mourir. Il meurt en 39, après avoir été torturé. Sa femme meurt après, dans des conditions épouvantables. Mmh. C'est quand même incroyable comme histoire.
Ils l'ont payé de leur vie. Et durement. Why? Texte, mise en scène, Peter Brook, Marie-Hélène Estienne. C'est jusqu'au 13 juillet pour l'instant, au Bouffe du Nord, à Paris. Ensuite... Si vous nous écoutez à New York, si vous nous écoutez à Taïwan, si vous nous écoutez en Chine, en Russie, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Colombie et à Châtenay-Malabry, sachez que ce spectacle viendra près de chez vous entre le mois de septembre 2019 et le mois d'avril 2020 pour le Théâtre Firmin Germier à Châtenay-Malabry. C'est le 29 et 30 avril, ce sera la fin de cette première tournée de ce spectacle dont on imagine qu'il pourra effectivement continuer longtemps à exister. À suivre dans la dispute, nous allons parler d'Hiroshima, mon amour, et nous allons donner beaucoup de conseils les uns et les autres.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras, à voir jusqu'au 7 juillet au Théâtre des Bouffes parisiens. Bernard Marcos a adapté pour le théâtre le scénario du film d'Anna René, écrit donc par Marguerite Duras. Bertrand Marcos a retrouvé pour l'occasion Fanny Ardant, qu'il avait dirigé déjà sur un autre texte de Duras, La pluie d'été. Avant d'en parler, un sentiment sur ce spectacle, Marie Sorbier?
Oui, j'ai l'impression que c'est une combinaison entre un grand texte, une actrice, une voix off, mais pas vraiment de théâtre.
Marie-Josée Serrache?
La femme à côté.
Jean-Christophe Briançon?
Le théâtre à côté.
D'accord. Alors pour mieux savoir un petit peu et avant d'entendre un court extrait de ce spectacle, Marie Sorbier, quand même résumé
l'histoire
de cette Hiroshima, mon amour.
Oui, alors nous sommes à Hiroshima, une nuit, elle et lui se rencontrent, passent donc une nuit ensemble et une journée, le temps s'étire, elle doit repartir le lendemain, elle est actrice, il est architecte, elle est française et il est japonais. Donc le scénario de Duras retrace la rencontre de cette femme et de cet homme quelques années après les bombardements atomiques. Et c'est un texte qui évoque à la fois la guerre, l'amour, la mort, l'oubli, enfin les thèmes durassiens finalement assez classiques. Là, il y a une mise en abîme dans le scénario, c'est que cet amant japonais devient également son confident et elle lui raconte son amour précédent avec un Allemand quand elle habitait à Nevers.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Préciser, bien sûr.
Ce qui pose effectivement un léger problème. On va écouter un extrait d'Hiroshima, mon amour.
La cave est petite. Très petite. La Marseillaise passe au-dessus de ma tête. C'est assourdissant. Les mains deviennent inutiles dans les caves. Elles grattent. Elles s'écorchent au mur. À se faire saigner. C'est tout ce qu'on peut trouver à faire pour se faire du bien. Et aussi pour se rappeler. J'aimais le sang depuis que j'avais goûté au tien. La société me roule sur la tête au lieu du ciel. Forcément. Je la vois marcher, cette société, rapidement pendant la semaine, le dimanche, lentement. Elle ne sait pas que je suis dans la cave. On me fait passer pour morte. Morte, loin de Nevers. Mon père préfère. Parce que je suis déshonorée, mon père préfère.
Voilà pour cet extrait du spectacle à l'affiche des Bouffes Parisiens. Marie-Josée Sirage, si vous commencez à nous parler de ce spectacle.
Oui, quand je disais la femme à côté, c'était pas du tout méchant, c'était peut-être du mauvais humour. Non, parce que évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la femme d'à côté, d'autant que celui qui lui donne la réplique, c'est Depardieu.
Alors il n'est pas sur scène,
il n'est pas sur scène, c'est une voix off, une voix blanche, et je trouve que de les entendre tous les deux, il suffit de fermer les yeux, c'est magnifique, c'est-à-dire qu'on plonge dans le texte, on la suit, et on la suivrait jusqu'au bout du monde. Je suis un petit peu plus réticente, mais sur le travail de mise en scène, je n'en ai pas trop vu, je n'ai pas trop vu de théâtre. Mis à part deux effets, enfin un ray de lumière quand elle s'avance au devant, puis ce fauteuil, elle tourne autour, elle va après s'allonger un peu plus loin. Bon, c'est pas très intéressant, je trouve. Mais sinon, voilà, après, il y a toute l'admiration que l'on peut porter à Fanny Ardant, qui est magnifique, qui dit ce texte. Alors peut-être au début d'une voix un peu trop... c'est un peu trop poussif, la première partie sur Hiroshima, mais je trouve qu'après, elle parvient à moduler et à changer de tonalité et à travailler sur plusieurs registres.
Jean-Christophe Briançon.
Oui, avant d'en parler, il faut juste que je précise que je l'ai vu il y a quand même quelques mois au Théâtre de l'Atelier, donc peut-être
pas au Bouffes Parisiens où c'est repris.
Bouffes Parisiens où c'est en ce moment. Donc voilà, comme mon avis n'est pas forcément très positif, peut-être que le spectacle a évolué, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'en ai vu ne m'a pas convaincu, puisque bon, on est face à une œuvre qui essaye de mettre en majesté autant que faire se peut une comédienne et un texte. Bon, alors Fanny Ardant est traitée un petit peu à l'image d'une Berma proustienne qui serait là pour nous dévoiler un texte comme ça de manière un peu évaporée et grandiloquente. Je suis pas certain qu'on avait besoin de Monsieur Marcos pour nous montrer que Duras était une auteure importante et que Fanny Ardant était une comédienne de qualité, puisque c'est ce qu'il semble vouloir nous montrer. C'est ce qu'on voit qu'il essaye de nous montrer. Or, malheureusement, c'est même pas ce qu'on voit réellement, puisque, in fine, Fanny Ardant se trouve être, comme le disait Marie-Josée, parfois dans une diction un petit peu poussive, et ce texte complètement empoussiéré sous cette diction problématique et dans cette scénographie d'un ringard absolu. Honnêtement, je trouve ça rare, quoi, de faire ça aujourd'hui de cette façon-là. Quand on fait un seul en scène pour nous dire un texte, bon, il n'y a pas besoin, a priori, de vouloir se mettre en avant à ce point-là ou de vouloir faire un geste absolument. Bon, on a un
qu'est-ce
texte,
qu'il y a
une comédienne. Voilà, là, il y a, alors, déjà, tout bêtement, mais alors ça, c'est subjectif, hein, je veux bien vous l'accorder, mais tout bêtement, il y a quand même un objet sur scène qui est un fauteuil. Je suis désolé, mais ce fauteuil est immonde.
Ah, d'accord, on en est là, oui.
Bon, okay. Donc ça, c'est tout à fait
préférer
subjectif.
Préférer les chaises de classe.
De fauteuil rococo. Non, mais bon, c'est quand même... Bon, le fauteuil est là, quoi. Il est là.
Il est utilisé de façon étrange.
Il n'est pas seulement là pour s'asseoir, parce que justement, on ne s'assied pas dessus. Il est là pour être montré. Donc c'est pour ça que l'esthétique est quand même importante. Il est là pour être montré, puisqu'on ne s'assied pas dessus. Et montrer ça, cette espèce d'objet rococo, je trouve ça pas possible. Bon, et en dehors de ça, Fanny Ardant est dirigée là aussi avec des indications qui sont très claires et volontaires. Quoi, elle est là, elle se frotte à ce fauteuil, elle vient s'allonger sur le plateau, elle est présente. Quoi, vraiment les indications ont été manifestement données et respectées. Je suis pas certain qu'il était nécessaire de mettre Fanny Ardant dans ses postures pour nous réciter ce texte magnifique.
Bon, vous avez adoré ce spectacle, hein, je crois, Jean-Christophe Brianchon. Marie Sorbier.
Oui, moi je vais revenir aussi sur Bertrand Marcos, puisqu'il nous dit dans sa note d'intention, je le cite, qu'il veut faire entendre cette histoire sans l'intervention subjective du cinéma. Et j'adhère assez avec le parti pris de départ, parce qu'on a quand même beaucoup vu d'adaptations de films au théâtre et pas que pour le bien, donc toujours un sujet compliqué, je trouve. Et de partir sur l'idée de dire, moi, ce que j'adapte, c'est le texte de Duras et pas le film de René. Je trouve ça intéressant, a priori. Sauf qu'en fait, il se trouve que moi, j'ai jamais pu, à aucun moment, oublier le film. C'est-à-dire que quand j'entendais les mots, je voyais Emmanuel Riva, je revoyais ces images de film. Et elle n'est pas parvenue à aucun moment à me faire vriller, justement, dans le théâtre, à me faire oublier les images du cinéma. Et en ça, je pense que son intention est assez ratée, puisqu'on n'arrive pas en fait à prendre le parti pris du théâtre dans sa mise en scène.
Non, mais moi j'ai pas ressenti ça du tout. J'avais pas lu la note d'intention. Peut-être que ça aide. Moi je l'ai vu hier après-midi, donc beaucoup plus récemment. Vous, Jean-Christophe, je l'ai trouvé plutôt très bien, moi, Fanny Ardant, et surtout dans la première partie en fait. Contrairement à vous, Marie-Louise Serra, je trouvais que toute la partie, on va dire japonaise, Hiroshima, était justement peut-être un peu en dessous, un peu en dedans, et qu'il y avait quelque chose d'un peu trop mélodramatique dans le récit de la Seconde Guerre mondiale, la cave, le soldat allemand et sa mort. Et d'ailleurs, je trouve une juste forme de justesse revenait aussi à la fin du spectacle, quand on est de nouveau vraiment à Hiroshima. Moi, je ne savais pas non plus qu'il y aurait la voix de Gérard Depardieu, donc j'étais très ému, comme vous, parce que c'est évidemment émouvant d'entendre ces deux-là sur la même scène. Je trouve que c'est remarquablement bien fait au niveau du rythme, et d'une façon extrêmement naturelle on a vraiment l'impression qu'il est là, enfin,
il est en coulisses, dialoguer avec.
C'est vraiment pour le coup extrêmement bien réglé. Ce qui est normal, hein, c'est un travail qui doit être bien fait, mais je précise que là aussi, on en a vu aussi des spectacles avec des voix enregistrées qui parlent par-dessus. Là, c'est extrêmement bien réglé. Moi, j'ai vu une salle délirante d'enthousiasme, ovation debout pour parler français à la fin du spectacle, mais bon, après, on vient voir l'actrice célèbre. Je pense pas que ça nécessite forcément telle démonstration d'amour, mais c'est tant mieux pour Fanny Ardant qui les reçoit. Et moi, je trouve que c'est quand même bien qu'une très belle actrice, au sens grande actrice, puisse recevoir cet amour-là de la part de la salle. Donc moi, c'est pas le spectacle le plus impressionnant que j'ai vu ni cette année ni de ma vie, mais j'ai entendu pour le coup le texte. Je n'ai pas vraiment pensé au film, et j'ai jamais eu une grande passion pour Emmanuel Riva, donc peut-être que ça aide aussi.
Oh, quand même.
Ben non, je vous le dis et je le redis, mais peu importe. Hein, je veux me cacher derrière la subjectivité que demandait tout à l'heure Jean-Christophe Brianchon. Donc moi, j'ai eu ce que j'étais venu entendre finalement. Marie-José Serrache.
Non, il y a un moment où je la trouve magnifique parce qu'elle a un petit rictus et sa voix. On retrouve cette Fanny Ardant
piquante.
Ouais. Quand elle dit « je ne mens pas, je mens parfois », là elle est troublante, elle joue dans la séduction, elle est vraiment très juste. Et à la fin, quand elle salue, elle vient avec ses chaussures, elle a enlevé ses chaussures, je la trouve craquante.
Ah, ouais, elle a enlevé ses chaussures hier.
Et ben, elle était craquante, l'autre fois, elle avait enlevé ses chaussures, et il y a un côté extrêmement simple, enfin voilà, je trouve... Il y a une proximité, une familiarité, parce qu'effectivement, on l'a vu dans le cinéma de Truffaut. Moi, je l'avais pas vu au théâtre, je l'avais jamais vu au théâtre, donc c'était la première fois que je la voyais sur un plateau. Mais elle tient la scène, elle tient l'espace, elle tient. Elle est là, on l'entend. Ça, c'est vrai, c'est indéniable. Le travail du metteur en scène. Alors, je vois qu'il est tout jeune quand même, ce metteur en scène. Donc, moi, j'avais jamais rien vu de lui. Bon, en accordant lui le bénéfice, non pas du doute, mais de l'inexpérience, peut-être.
Non, Marie Sorbier, elle fait drôle de tête. J'ai pas lui demander d'en dire plus. On s'arrête là sur Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras. Mise en scène, N'en déplaise à Jean-Christophe Briançon de Bertrand Marcos. C'est avec
moi, je lui souhaite une
Fanny
carrière,
Ardant et c'est jusqu'au 7 juillet au Théâtre des Bouffes Parisiens.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Voici venu le moment que vous attendez tous. Sortez vos bloc-notes, vos stylos. La dispute cette semaine vous donne des conseils. Nous sommes comme ça, nous avons envie, puisque c'est la dernière semaine de la saison radiophonique, hein, lundi prochain, à cette même heure. Il y aura, je crois, les rencontres de Pétrarque avec l'excellente Hervé Gardette qui sera en direct de Montpellier. Donc, conseil ce soir de livres à lire, de spectacles à voir dans les festivals cet été. On va commencer par une lecture, tiens. Marie-José Sirache, elle a plusieurs livres à nous conseiller. Mm-hmm. En premier lieu, peut-être quand même celui d'Olivier Neveu, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Ah, vous avez oublié ?
Non, pas ça.
Non, mais d'abord, celui d'Olivier Neveu, si vous voulez bien, Marie-Josée Sirache. Vous savez, on a organisé cette séquence un peu au débeauté, nous ne nous le cachons pas.
La fin de l'année, là.
Non, pas du tout. Vous voulez qu'on développe sur le changement de programme de cette émission ou pas ?
Pas du tout.
Bon,
tout va bien.
Alors, si vous voulez bien nous parler d'Olivier Neveu.
Avec plaisir, Olivier Neveu.
Contre le théâtre politique à la fabrique, et vous parlerez ensuite des autres ouvrages. D'accord, mais dans un deuxième temps, on va essayer de varier les paroles dans cette séquence.
Ah, très bien, d'accord, parce que j'avais réfléchi dans un enchaînement, mais peu importe. Donc, Olivier Neveu, contre le théâtre politique, aux éditions La Fabrica.
La Fabrique.
La Fabrica,
c'est une salle à Avignon, mais on n'y est pas encore.
C'est vrai, je suis déjà à Avignon quelque
part. La Fabrique.
Non, c'est un livre.
Un livre.
Qui se lit d'abord assez, non pas assez vite, parce que il nous questionne tellement, il nous oblige à nous remettre tellement en cause qu'il parfois il nous met mal à l'aise, parce qu'il y va franco, sans faux semblant, en questionnant ce fameux adage, tout est politique, le théâtre est politique, le théâtre, comme il y a un abandon, enfin, la fameuse phrase où on met tout, enfin voilà, tout se vaut, tout est politique, qui se traduit un par un abandon de la pensée politique critique et deux par une injonction aux artistes à penser, PAN, les mots MAUX de la société. Bon, partant de là, Olivier Neveu contre-attaque, s'insurge. Moi, je sais que je l'ai lu, je ne suis pas d'accord tout le temps avec ce qu'il écrit, mais il m'oblige à réfléchir, et c'est ça qui est intéressant, à me remettre, moi, comme spectatrice, comme critique, en cause tout le temps.
Et il tape sur beaucoup de monde, hein, Olivier Neveu.
Oui, oui, il tape, mais ça fait du bien.
Non, mais je suis d'accord.
Au milieu du consensus un peu mou, c'était un bouquin qui vient nous déranger comme ça, en nous disant, bon, parce qu'on a tous des enthousiasmes peut-être un peu faciles, un peu consensuels, finalement, on est dans le mainstream, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on s'accroche, on essaie de se dire on est utile à cet endroit-là, en tant que critique, par exemple, pour servir de passeur entre le spectateur qui a vu ou pas vu le spectacle et le metteur en scène et la troupe artistique. Mais finalement, notre place, il faut qu'on sache nous aussi rester à notre place, être humble dans un monde où on colle des étiquettes partout, où on nous dit c'est ce spectacle-là qui est bien et c'est celui-là finalement qui est pas bien. Enfin, voilà, ça nous oblige à ne pas ça nous oblige à ne pas rester, enfin à sortir de notre zone de confort. Ça pose des questions sur, par exemple, pourquoi le théâtre aujourd'hui continue-t-il de se prévaloir, enfin de monter autant de Molière, de Shakespeare. Il faut, moi je suis pour, c'est pas le problème, mais en avançant l'argument, parce que ça nous éclaire
le
présent. On
parle d'aujourd'hui.
Voilà. Alors c'est une vraie question. Voilà. Moi, je ne sais pas trop. Je n'ai pas de réponse, mais ça nous oblige à y réfléchir. Pourquoi, par exemple, toute l'actualité politique a eu ces derniers temps, on ne la retrouve pas sur scène.
On la retrouve beaucoup. C'est difficile d'avoir des spectacles sans migrants.
Oui, et sans gilets jaunes.
Ouais. Alors sans gilets jaunes.
Pour
mais
le pire,
pas
pour
beaucoup.
Le meilleur, ça commence.
C'était un meilleur retour à Reims.
Mais ça devient presque. Mais
après, c'est des indignations
choisies. Voilà,
c'est très ciblé. Il y a 3-4 indignations qui sont mises en scène et pas les autres.
Oui, mais elles y sont, quoi.
Non, ça, mais ce sont des références, parce que effectivement, on est raccord avec l'actualité. Mais une pensée, enfin un théâtre comme celui de Meyerhold, qui prenait le monde tel qu'il était sous ses yeux et il le faisait exploser sur un plateau. Là, on est quand même tous très très sages. On est très formaliste dans les esthétiques, dans les parties pris artistiques. Donc c'est tout ça que questionne violemment Olivier Neveu et qui fait un peu de bien.
Mais c'est vrai que pour faire, comme on fait de la prospective, à Avignon, on va voir énormément de spectacles autour des récits mythologiques et notamment d'Ulysse. Pourquoi ?
Puisque le thème de l'édition de cette année est l'Odyssée.
Oui, l'Odyssée, parce que les Odyssées contemporaines, on sait ce que c'est que les bateaux qui traversent la Méditerranée. Bon, on verra comment c'est traité. Il y a parfois une facilité, parfois une vraie justesse. Donc c'est vrai que les critiques d'Olivier Neveu font du bien, parce que ça, effectivement ça secoue. Marie Sorbier, votre lecture d'Olivier Neveu ?
Moi j'ai beaucoup aimé cet essai, je trouvais ça très... très réjouissant, très frais en fait, et notamment parce qu'il cite des gens. Ça, j'aime bien.
Oui, au moins, il ne se cache pas derrière son petit doigt.
Il ne se cache pas derrière des théories fumeuses où tout le monde devine qui c'est, mais il ne le dit pas comme on en lit parfois.
Ouais.
Là, il parle des spectacles, il parle des compagnies, il parle des metteurs en scène, il dit ce qu'il en pense.
Il parle des lieux aussi.
Des lieux. Et ça, j'ai trouvé ça très frais et je trouve que ça fait du bien au milieu.
Jean-Christophe Briançon, sur ce livre aussi.
Moi, je suis très d'accord avec Olivier Neveu et j'ai beaucoup apprécié ce livre que je trouve effectivement rafraîchissant par sa franchise et qui nous permet d'avancer dans un questionnement qui est, en tant que critique qui voyons beaucoup de pièces, évidemment le nôtre quasiment quotidiennement, quoi, de savoir ce qu'exactement veulent dire les pièces qu'on va voir. Ça s'est posé entre autres dernièrement avec L'ennemi du peuple de Jean-François Sibadier à l'Odéon, qui est une pièce
d'Ibsen,
d'Ibsen évidemment, et qu'on dit être politique, bon, que les metteurs en scène montent souvent de façon un petit peu facile, comme avait pu le faire Ostermeyer il y a quelques années, où justement le côté politique de la pièce était utilisé de manière un petit peu grotesque.
Démagogique
en tout cas. Voilà, ce livre vient nous demander ce que c'est que de faire de la politique sur un plateau. Est-ce que finalement, quand on applaudit tous debout Ostermeyer qui nous montre cet ennemi du peuple, est-ce qu'on ne fait pas finalement rien d'autre qu'une espèce de petite et ridicule révolution de salon comme ça entre nous. Je crois que finalement, si, il n'y a pas grand chose de politique dans ces gestes-là et ces gestes qui se revendiquent justement d'un théâtre politique. Donc Olivier Neveu vient nous questionner et nous le dire et c'est salvateur, vraiment.
Bon, le livre s'appelle Contre le théâtre politique, il est publié à La Fabrique. Tiens, quelques spectacles. Alors, Marie Sorbier, non, Richaud, c'est la semaine dernière avec vous, je vous ai confondu, c'était merveilleux à l'antenne, je le refais. Votre amour pour la Confédération helvétique va pouvoir retrouver un nouvel espace de jeu, un nouveau terrain d'expression ce soir. Vous avez un petit livre rouge devant vous pour rester sur le terrain politique. Alors.
Oui, je voulais vous parler ce soir de la sélection suisse en Avignon, parce que, alors pour plusieurs raisons.
Vous aimez la Suisse.
Parce que j'aime la Suisse.
Première raison.
Voilà, ça c'est une première raison, mais parce que j'ai des raisons d'aimer la Suisse, artistiquement parlant. Et notamment cette sélection suisse. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un label en fait. Et c'est là où ils ont été très forts. On sait que, par exemple, les Belges ont un lieu qui s'appelle le Théâtre des Dons. Et donc la production belge, je parle du Hof d'Avignon, se produit principalement dans ce lieu. La Suisse a fait un choix différent, a fait le choix de d'essaimer à travers la ville et de se répandre dans plusieurs lieux, mais pour être visible, de créer un label. Donc c'est un fond rouge avec trois lettres en blanc écrit SCH, c'est assez clair. Et depuis 3 ans, ils sont arrivés à un exploit assez étonnant, c'est-à-dire c'est d'être remarqués. Je rappelle juste que le Hof d'Avignon, cette année, c'est plus de 1500 spectacles par jour. 1500 spectacles par jour, c'est une jungle. Pour se repérer et pour être visible, il faut quand même être particulièrement fort. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Laurence Pérez, qui dirige cette sélection, qui programme depuis 3 ans, a réussi à faire quelque chose de cohérent. En fait, elle a créé une esthétique, une image qui représente un certain type d'artiste suisse. On n'est pas dans la pluralité, on n'est pas dans l'exhaustivité. On est dans qu'est-ce que
une
la Suisse
sélection.
Veut montrer à l'étranger et donc à Avignon. Pour cette troisième sélection, donc, on a 6 spectacles et une lecture, donc répartie dans 7 lieux à Avignon. Donc, je vais vous en parler, peut-être parler de 2 spectacles que j'ai vus. Un très joli jeune public qui est mis en scène par Dorian Roussel, qui s'appelle L'Oiseau Migrateur, qui avait été créé à Sartrouville pendant les Odyssées en Yvelines, qui est un spectacle, mais d'une poésie et d'une délicatesse incroyable. C'est quasiment rien. On a deux monolithes et une craie et un dessin. C'est parfait pour ce qu'on cherche à Avignon quand on a des enfants. C'est-à-dire un moment de calme. C'est presque de recueillement et les enfants fonctionnent à fond sur ce spectacle qui est une petite merveille. Et puis, vous parlez aussi d'un spectacle que j'aime beaucoup qui s'appelle EF Femininity, qui est un spectacle un peu particulier sur le genre. C'est pareil, ça fait partie des thématiques qu'on a quand même pas mal vues ces derniers temps et pas toujours pour le mieux. Et c'est un des spectacles les plus intéressants que j'ai vus sur ce sujet-là. Ce sont des Suisses allemands et ils ont travaillé avec des femmes d'Inde. Et elles sont là sur le plateau, elles ont des corps incroyables, une relation au corps incroyable, il y a un discours sur ce qu'est être une femme qui est assez étonnant et pareil, sans langue de bois, très brute comme ça, très dans le corps, on est presque dans la danse, hein. C'est vraiment un spectacle entre danse et théâtre, et c'est assez étonnant, et rien que pour découvrir ces femmes, il faut absolument voir ce spectacle.
La sélection suisse, ils sont tellement forts qu'ils ont même réussi à infiltrer la programmation de France Culture, puisque la lecture... Dit,
voilà. Et donc une lecture quand même avec Mathieu Amalric, d'un texte de Jacou, qui est un texte inédit, je crois, qu'on n'a jamais lu, Antoine Jacou, qui s'appelle Au revoir, et qui sera dans la cour du musée Calvé, avec France Culture.
Ça, c'est le 13
juillet.
Ben voilà, ils sont forts.
Ils sont trop forts, ces Suisses.
Ils sont forts,
ces Suisses. Quand même que pour la première fois, pardon, il y aura un spectacle dans le IN. D'habitude, la section suisse était cantonnée dans le OFF. Et là, François Grémaud, qu'on connaît,
que le public a découvert
avec la conférence des choses, qu'on avait vu partout et qui a beaucoup tourné, et qui donc présente sa nouvelle création intitulée Phèdre.
Point d'exclamation. Phèdre.
Et c'est assez étonnant.
Phèdre.
C'est un spectacle qui a été créé pour les lycées. C'est un spectacle de décentralisation, ce qu'on dirait en France. Il a tourné partout dans les salles de classe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il y a un jeune homme qui est ce livre à la main. Et il nous raconte Phèdre comme dans une conférence à qui s'adresserait à des gens qui ne connaissent rien dans la mythologie et qui ne savent pas qui est Phèdre. Sauf qu'il finit par dire Phèdre et on l'entend incroyablement bien. Et c'est vraiment le spectacle.
Ça fait très très envie, ça aussi.
Ouais, c'est vrai.
C'est sur ma liste, voilà.
Voilà, bah formidable.
J'ai pas mal des Suisses dans ma liste. Alors, tiens, Jean-Christophe Briançon, si on restait à Avignon avec vous.
Oui, bah moi je voulais parler aussi d'Avignon parce que on a pris l'habitude, moi en tout cas parfois, de se plaindre de la flemme de certains festivals ou de certains
programmateurs
qui nous montrent un petit peu la même chose sans trop réfléchir à défricher. Bon, on a beau s'en plaindre, c'est pas toujours vrai, et en l'occurrence même à Avignon qui brasse énormément de théâtre classique, on trouve aussi de l'émergence, aussi bien dans le IN que dans le OFF, de l'émergence qui fait sens et qui nous montre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, en l'occurrence. Bon, alors il y a plein de choses, hein, c'est pas du tout exhaustif ni rien, mais moi je pensais personnellement à deux personnes que j'aime beaucoup, à Rebecca Chaillon, d'abord, qui va présenter à Avignon dans la sélection qui s'appelle maintenant Vive le sujet, qui avant était les sujets à vif. Elle va présenter un spectacle dont on sait pas grand-chose, voire rien, puisque c'est une création, si ce n'est ce qu'il a pu en être dit, écrit sur le site du festival, que je vous lis parce que je trouve que ça, personnellement, ça me donne très envie. Elle nous dit ce spectacle, ce sera sans doute l'histoire d'une noire et d'un blanc, d'un pédé et d'une gouine, d'une bavarde et d'un taiseux qui taille une bavette, de Saint-Pierre et de la Vierge Noire, d'une bouchère et d'un idiot, d'une croyante et d'un crédule. Il y aura des joutes verbales, des listes et à lire entre les lignes. Donc c'est assez énigmatique, mais finalement ça met l'eau à la bouche. Et c'est donc fait par Rebecca Chaillon, qui est une jeune fille de 33 ans, me semble-t-il, qu'on connaît un petit peu quand même, malgré tout, parce qu'elle était, entre autres, à Avignon, il y a quelques années, au Jardin Secano, dans la pièce de Jean Bellorini, la pièce feuilletonnante, voilà, qui est maintenant devenue une habitude du Festival d'Avignon. Et dernièrement, elle a créé, à Rouen, une très jolie pièce, performance, avec les Dégommeuses, qui est un collectif de footballeuses qui travaillent sur le genre, sur la notion de genre. Bon, c'est une femme vraiment exceptionnelle qui travaille beaucoup, qui réfléchit à sa forme, qui réfléchit et aussi de manière, puisqu'on parlait de théâtre politique, voilà, qui réfléchit à ce que c'est que de faire du théâtre politique aujourd'hui, et qui, accessoirement, en plus de ça, est une performeuse, réellement, une performeuse, un corps, une comédienne assez hors norme. Elle sait jouer, elle sait être là, quoi. C'est une jeune fille, donc à 33 ans, donc il y a de l'émergence aussi dans le IN.
Je reviens vers vous pour un choix dans le OFF. Ouais. Jean-Christophe, je me glisse quand même Rome, puisqu'on parle d'Avignon, moi j'attends quand même avec impatience le Péléas et Mélisande de Metterlinck monté par Julie Duclos, parce que c'est une jeune metteuse en scène dont j'aime vraiment bien le travail. Son approche cinématographique, là aussi on en voit beaucoup, hein, les approches cinématographiques du théâtre, mais là je trouve qu'elle a quand même une chose assez particulière et surtout un don de directrice d'acteur assez poussé, comme j'aime infiniment Metterlinck et que c'est quand même une pièce qu'on voit jamais. On connaît évidemment davantage l'opéra qui en était fait par Debussy. Donc voilà. Voir si Maëlle Poésie va confirmer aussi, puisqu'on reste dans les jeunes metteuses en scène, puisqu'elle revient à Avignon avec Sous d'autres cieux, c'est un texte de Kevin Kaist d'après Virgile, puisqu'il y a quand même beaucoup de mythologies qui seront présentes à Avignon. Donc j'avais noté François Grémaud, ça c'est fait. Tommy Milio, là aussi, c'est aussi un jeune metteur en scène intéressant qui avait gagné, je crois, le festival Impatience il y a quelques années, qui met en scène un texte de Naomi Wallace, La Brèche. Donc il y a quand même pas mal de jeunes prometteurs et prometteuses dans le IN. Et puis Dorian Rossel, j'ai noté aussi qu'au Gilgamesh, il y a son spectacle La Terra Magica d'après Ingmar Bergman, mise en scène aussi que j'irai voir. Là aussi, c'est une sorte d'exercice d'admiration. Marie-Josée Sirage, tout à l'heure, je vous ai empêché de dérouler absolument les trois livres dont vous vouliez parler, mais c'était, vous voyez, pour un peu séquencer cette dernière partie de notre émission. Deux autres livres, donc, dont vous vouliez nous parler après celui d'Olivier Neveu.
Oui, très vite. Alors, Armand Gatti, Gallimard, dans sa collection Poésie, publie Comme battement d'ailes. Ce sont des poèmes en vers libre, hein, chez Gatti, il ne pourrait en être autrement, écrit entre 1961 et 1999. Armand Gatti, donc, est mort il y a maintenant 2 ans, qui nous laisse une œuvre extrêmement foisonnante, impressionnante, celle consacrée pour le théâtre, parce que il est quand même extrêmement compliqué et difficile de monter Armand Gatti. Et sa poésie, en revanche, je trouve qu'elle est lumineuse. C'est une écriture vivante, palpitante. Il parle des chemises rouges de Garibaldi, du blanc d'un paysage de Far West sur un écran de cinéma. Il va déambuler dans un Berlin où plane l'ombre de Rosa L. Il nous entraîne comme ça dans toute sa vie, parce que c'est un homme qui adorait les chats et qui, comme les chats, a mille et une vies. Il a été, c'est un fils quand même, son papa était boueur, sa maman femme de ménage, il a été maquisard à 16 ans, il a été arrêté par les Allemands, il s'est évadé, il a été journaliste, il a eu le prix Albert Londres. C'est lui qui avait fait un article magnifique lors de la mort de Gérard Philippe dans Paris Match. Et puis il est venu peu à peu au théâtre, c'était un théâtre extrêmement engagé, enragé, mais sa poésie est un endroit qui fait du bien, qui illumine votre lecture.
Et un autre livre ?
Et pour finir, alors un très très court texte que j'ai acheté tout à fait par hasard, de Pasolini, je pense que c'est une réédition, « Le manifeste pour un nouveau théâtre ». Et c'est extrêmement drôle, c'est toujours aussi moderne, parce que Pasolini, mine de rien, tout ce qu'il a écrit, que ce soit sur la télévision, sur le théâtre, plus que jamais, c'est encore à l'ordre du jour. C'est-à-dire que il était vraiment un visionnaire. Et ce manifeste pour un nouveau théâtre, mais alors, il bat en brèche le théâtre académique et le théâtre underground, le théâtre bourgeois et le théâtre anti-bourgeois, il met tout ça dans le même sac, hein. Le théâtre de bavardage, et il propose d'instaurer le théâtre de parole. Et à partir de là, il propose que les riches dames en vison payent 30 fois plus cher le prix du billet d'entrée et qu'on ouvre le théâtre aux fascistes de moins de 25 ans, parce que c'est l'ignorance qui engendre la peur et le fascisme.
Allez, dernier spectacle dans le off. Jean-Christophe Boyanchon.
Je vais faire court, il n'y en aura qu'un du coup, parce que pour parler d'émergence dans le off, ce n'est pas forcément évident, il faut tailler dans la masse. Bon, en l'occurrence, comme ça fait écho à plusieurs choses, c'est un comédien qu'on commence à voir beaucoup. Je voulais parler de cette pièce, Un garçon d'Italie, dans laquelle joue Yuming He, qui est aussi le comédien principal de la comédie musicale nouvellement présentée à Lyon par Bob Wilson.
Le livre de la jungle.
Dont le livre de la jungle qui sera à Paris à la rentrée. Là, il revient donc à Paris, à Avignon, avec cette mise en scène de Mathieu Touzet, avec laquelle il était déjà venu l'année précédente. C'est voilà, un comédien à découvrir, une pièce qui l'est tout autant, mais voilà, un jeune homme qu'il faut suivre et qu'on voit de plus en plus. Voilà, chez Wilson, une série sur Netflix également cette année. Bon, je suis pas sûr qu'il ait besoin de moi pour parler de lui, mais en tout cas, je trouve que si on s'intéresse au théâtre,
il faut le nouveau directeur du théâtre 14. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi, que ce soit une jeune équipe qui prend la direction de ce théâtre, et on ira évidemment y voir la saison prochaine dans ce théâtre 14. Sûr. Bon, on avait encore plein de choses à vous dire. Ouais, je suis jamais allé à Grignan, et vous savez, je vais aller à Grignan cet été.
Très bien.
Parce qu'il y a Ruy Blas, oui, pas ma pièce préférée, Yves Bonnen, que j'aime bien, et Noémie Gantier, qui joue dans Ruy Blas. Et ça, j'aime beaucoup chez Julien Gosselin. Je suis très curieux de la voir dans un texte classique. Et donc, j'irai à Grignan.
Et si je peux juste ajouter une toute petite chose hyper rapide. Romeo Castellucci sera au Festival d'Aix. Alors
mais ça, on en parle demain.
Oui, mais c'était juste pour dire
Requiem que... Requiem de Mozart.
Voilà, exactement.
Comment on met en scène Requiem de Mozart.
Qu'on pouvait partir d'Avignon pour aller à Aix et que c'était juste à côté.
On en parle demain. Enfin, on l'évoquera. Dans, parmi les choix aussi, et les propositions qu'on vous fera, pour la musique... Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin, qui nous rappelle la question du jeu de vendredi soir d'abord, Joséphine.
La question était auprès de quel artiste Berthe Morisot s'est-elle initiée à la sculpture ? Et la réponse était Aimé Millet.
Ce soir, des invitations à gagner pour aller voir le film de Teresa Villaverde, Contre ton cœur, qui est sorti mercredi. La question ?
Quel film de Teresa Villaverde, présenté au Festival de Cannes, permet à la cinéaste d'acquérir une large reconnaissance internationale ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfcr@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Isa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. Prise de son Jean-Guilain Mège. Réalisation Alexandre Fougeron. Bon anniversaire, Alexandre Fougeron, qui essayait de nous cacher que c'était aujourd'hui. Bon. Demain, à 19h, une dispute consacrée à la musique avec Lucille Como, Emmanuel Dupuis, Charles Ardenne. Nous parlerons de Don Giovanni, Mozart, mise en scène Ivo Vanov, Madame Favart, d'Offenbach, mise en scène Anne Kessler, Barbe Bleue, Offenbach encore, mise en scène Laurent Pelly. Le premier est à l'Opéra de Paris, le deuxième à l'Opéra Comique et le troisième à l'Opéra de Lyon. Et puis beaucoup de conseils donc pour aller à Orange, Aix, Salzbourg, Bayreuth, trois petits points.